Bien, il me faut maintenant présenter l'orateur ou l'oratrice de cet après-midi. Donc, il s'agit du docteur Isabelle Durand-Zaleski, qui combine deux compétences, compétence médicale, puisqu'elle est professeure de médecine à l'Université Paris 12, Paris-Créteil, et une compétence en politique, économie et société, puisqu'elle a fait également des études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université Harvard, où elle était en 85-86, puis à l'Université Paris-Dauphine, où elle a étudié les sciences économiques et de gestion. Le docteur Durand-Zaleski, après avoir été interne en médecine, puis chercheuse à l'université Tufts à Boston, puis assistante, maître de conférence et maintenant professeur des universités et responsable du service de santé publique à l'hôpital Henri Mondor, fonction qu'elle a exercée jusqu'à 2004, si je ne me trompe. Elle est actuellement directrice de cette chose qui porte le joli nom de URSECO, pour l'Île-de-France. Bon, il s'agit de problèmes dans lesquels elle est experte d'économie de la santé. Je suis très heureux d'avoir pu gagner sa participation et je lui ai proposé comme sujet de réflexion, d'où elle est partie librement, une phrase que j'ai trouvée chez Michel Foucault, mais qui est une citation, comme assez souvent chez Foucault, inexacte, mais intéressante, « La santé a remplacé le salut ». Je lui ai proposé ça comme titre. Je suis impatient de savoir ce qu'elle en aura tiré. Donc, je vous demande votre exposé, docteur et cher ami.
Merci beaucoup. J'ai retiré mon masque. Quand même, oui. Très bon désinfectant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Donc, je suis très intimidée, jamais depuis l'oral du bac ou même Sciences Po, j'étais aussi intimidée, de parler devant vous. Donc, la santé remplace-t-elle le salut ? Alors, c'est évidemment plus drôle, si j'ai bien compris, nous avons quelques hispanophones ici en espagnol et en latin, puisque le mot est le même. Et j'ai trouvé une petite pièce qui représentait Néron d'un côté et Salus, le dieu, de l'autre. Alors, pour essayer de traiter ce sujet, j'avais prévu 6 points. Donc, pourquoi est-ce que la question se pose ? Qu'est-ce que c'est que cet animal, la santé sans le salut ? Quels sont les points apparemment communs entre le salut et la santé ? Pourquoi est-ce qu'il est, me semble-t-il, dangereux de les confondre ? Est-ce qu'il y a de la concurrence ? Et qu'est-ce que finalement vous, comme académie, pouvez faire en sorte que les dangers que je vais essayer de vous exposer ne soient pas trop épouvantables ? Alors, cela dit, donc la santé remplace le salut, ou a-t-elle remplacé le salut ? Bon, en préambule, je voudrais quand même m'interroger sur le verbe remplacer, puisque quand on dit remplacer, ça veut dire que les biens sont des substituts et que l'absence de l'un peut être palliée par la présence de l'autre. Alors, historiquement, et là encore j'ai bien compris qu'un grand nombre d'entre vous connaissaient la Bible beaucoup mieux que moi, historiquement, c'était un peu ce qui se passait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on disait... Vous n'avez pas la santé, mais regardez comme ça va être bien plus tard. Et donc, on a présenté finalement la maladie, l'absence de santé, comme une voie vers le salut. Donc, dans les béatitudes, il y a « Heureux les affligés, ils seront consolés ». Après, bien sûr, mes confrères des siècles passés, qui ne pouvaient pas grand-chose, étaient bien contents de trouver dans les Écritures un moyen d'expliquer que, certes, on ne pouvait pas faire grand-chose pour vous, mais ce n'est pas si grave. Hein. Ça s'arrangera plus tard. Et puis, plus sérieusement, l'idée que la souffrance est un moyen de se rapprocher de Dieu, et là, il y a la prière de Pascal que vous connaissez sans doute, qui est sur le bon usage des maladies. « Je vous loue, mon Dieu, et vous bénirai tous les jours de ma vie, de ce qu'il vous a plu de me réduire dans l'incapacité de jouir des douceurs de la santé. » Ça, c'est assez fort, hein. Cela dit, mais là encore, il y a sûrement des spécialistes de Pascal, je pense qu'il ne faut pas interpréter cela comme étant une louange de la maladie, mais plus une prière que la maladie soit une voie vers Dieu. Et c'est ce qu'il dit ensuite, c'est-à-dire « Faites-moi bien connaître que les maux du corps ne sont autre chose que la punition et la figure tout ensemble des maux de l'âme, mais Seigneur, faites aussi qu'ils en soient le remède. » Donc c'est pas... Je pense que chez Pascal, ce n'était pas l'idée que c'était un substitut, mais que c'était vraiment une voie vers le salut. Donc, cette idée doloriste a été critiquée pour d'assez nombreuses raisons religieuses, philosophiques, mais en fait, ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est que finalement, c'est ce qui a donné à la santé cette espèce de statut d'équivalent du salut. Et je pense que c'est un peu ce dont nous vivons les conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de médecine et que la médecine ne pouvait pas faire grand-chose, il n'y avait pas de santé, donc il y avait le salut et puis fin de l'histoire. À partir du moment, et c'est un petit peu pourquoi la question s'était posée, pourquoi Michel Foucault en a parlé, à partir du moment où la médecine a commencé à pouvoir beaucoup... Et ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière avec, je pense, un grand nombre de mes confrères qui vous ont expliqué tout ce qu'on savait faire de merveilleux. Et à partir du moment où, là aussi, moi, je pense que c'est de manière concomitante, il y a un peu une perte de spiritualité, un manque de transcendance, évidemment, la santé peut exciper de cette confusion et dire « me voilà, je vais remplacer le salut ». Et c'est un petit peu, peut-être, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, pas seulement aujourd'hui, donc Rémi Brague l'a rappelé, Michel Foucault cite un autre auteur qui s'appelle José Miguel Guardia, pardon pour l'accent, hein, donc José Miguel Guardia dit « La santé remplace le salut, c'est que la médecine offre à l'homme moderne le visage obstiné et rassurant de la finitude. » En elle, la mort est ressassée, mais en même temps conjurée. » Mais en fait, José Miguel Guardia cite encore quelqu'un d'autre, donc ça c'est vraiment machin qui cite machin qui cite machin, quelqu'un qui s'appelle Von Helmont, je ne connaissais pas du tout, hein, qui dit « Il est certain que Von Helmont a confondu la santé avec le salut et la maladie avec le péché. » Donc on retrouve quand même cette idée maladie-péché. Hein. Et donc José Miguel Guardia poursuit « La santé finira par l'emporter sur le salut. » Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Alors, sur le sujet santé, salut et idolâtrie de la vie, enfin, moi, pour moi, le texte le mieux là-dessus, que j'ai lu là-dessus récemment, c'était le tract Gallimard d'Olivier Rey qui s'appelle « L'idolâtrie de la vie ». Donc, il a écrit cela pendant la première vague de l'épidémie de Covid et ça part de l'idée que, en fait, ça part de l'état Léviathan. Et là aussi, vous allez voir, je pense que le rôle que joue l'État est considérable dans ces affaires. Donc, ce que dit Olivier Rey, c'est que depuis le XVIIIe siècle, l'État s'est vraiment mis en situation de Léviathan, c'est-à-dire de dire « je peux tout pour vous ».« Je peux tout pour vous, confiez-moi vos vies et je peux tout pour vous ». Alors, à partir de là, évidemment, on a un souci, surtout que... Et cette position a été complètement confortée en 1945 par l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit quelque chose de terrible. Et là, je pense que M. Delvaux pourra en parler mieux que moi. À partir du moment où on dit la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, déjà, on est un peu au paradis. Mais surtout, c'est le pire est à venir. Il dit « ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité », qui représente l'un des droits fondamentaux de tout humain. Poser la santé en droit, pour les médecins, c'est, et pour l'État, hein, c'est assez terrifiant, parce que, en fait, c'est juste une proposition intenable. Proposition intenable étant la forme polie de ânerie monumentale, mais donc c'est posé par l'Organisation mondiale de la santé. Et on voit bien que l'État, Léviathan, s'est engouffré là-dedans Et pour moi, ce qui est intéressant, on y reviendra, c'est qu'il n'y a pas trop de contre-pouvoirs. Ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où l'État assure la santé du corps social, et là encore, ceux qui ont étudié Hobbes savent mieux que moi que le rôle de l'État, c'est de perdurer dans son être, donc, et de tout faire pour ça. Bien sûr, il va tout faire pour ça. Et bien sûr, et ça, ça a donné lieu à un certain nombre de discussions intéressantes sur le conflit direct qu'on a vu, non pas entre l'État et le salut, mais entre l'État et les rites qui accompagnent la mort, par exemple. Et vous avez bien lu aussi toutes les discussions autour du fait que pour préserver la santé des Français, on a interdit les rites aux morts. Et pour moi, ça illustre assez bien cette tension entre la demande qui est faite à l'État d'assurer, alors la santé, nous y reviendrons, moi je pense que c'est impossible, mais d'assurer qu'on meure le moins possible, hein, et puis des aspirations un peu plus transcendantes de la population. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un animal qui serait la santé sans le salut dans une société donnée? Donc, comme je l'ai dit, jusqu'au milieu du XXe siècle, les moyens médicaux étaient assez limités, et donc on était d'accord sur le fait que l'état de santé de quelqu'un résultait un peu de la chance, un peu de Dieu, et puis un petit peu de ce que faisaient les médecins. Là, c'est plus tout à fait pareil. Et il y a quelques mois, Rémi Brague participait à une émission dont le titre était « Le catholicisme a-t-il un avenir en France ?» Et moi, j'aimerais bien retourner la proposition et la transposer en disant « La santé a-t-elle un avenir dans le salut ?» Et c'est un petit peu cette question-là. Alors, la santé a-t-elle un avenir dans le salut ? Peut-être, mais ça va être compliqué. Parce que, en gros, quand on ne croit plus au salut, ce qu'on demande à la santé, c'est déjà l'immortalité. Et là, vous voyez bien, bon, là encore, hein, l'année dernière, vous avez vu tout ce qu'on sait faire, mais la demande d'immortalité est probablement impossible, même avec les puces, et là encore, toutes sortes de philosophes ont mieux écrit que moi, bien mieux, penser que moi sur le transhumanisme et ses risques. Puis surtout, ça coûte à rien cher, donc là aussi, nous y reviendrons. Donc la demande d'immortalité, ça existe. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous voyez bien que ça existe aux deux extrémités de la vie, avec toutes les demandes, et là, je pense qu'encore votre académie réfléchit beaucoup dessus, les demandes de gestation pour autrui. Donc les idées qu'on pourrait mettre des puces un peu dans tous les sens. Mais je pense que ce sont des dérives un petit peu dangereuses et qu'il vaudrait mieux trouver ailleurs la possibilité d'assouvir sa demande d'immortalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la demande d'accès aux soins est tout à fait légitime. La demande, ou même le droit à la santé, c'est vraiment très problématique. Parce que si on n'a pas accès à quelque chose qui est un droit, c'est inacceptable. Par construction, je pense qu'on ne peut pas exiger l'accès à la santé. On peut tout à fait exiger l'accès aux soins, mais en cela, la santé, c'est comme le salut, c'est-à-dire que c'est dur de l'exiger. En revanche, les soins peuvent faire un substitut correct, mais là encore, à un certain prix. Et le risque, c'est que vraiment, nous soyons en situation de devoir expliquer à la population que nous ne pouvons pas garantir la santé. Oui, nous avons des moyens assez importants d'exiger les soins. Simplement, ça ne nous suffira pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est ennuyeux aussi? C'est parce que, j'ai dit, ce qui s'est passé, je crois, ce siècle passé, c'est effectivement la perte de spiritualité, c'est l'avènement d'un libéralisme économique un peu perçu comme valeur suprême, et ça conduit aussi à ce que le corps soit devenu un bien de plus en plus marchand, ou être en bonne santé soit devenu de plus en plus marchand. Alors, je pense que la France, enfin, est très, assez préservée de ça. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on discute en cours. Et je suis très reconnaissante au Conseil d'État de l'arrêt sur le lancer de nains, qui a permis de poser qu'il y avait une dignité qui n'était pas monnayable et qui n'appartenait pas à l'homme. Mais ce n'est pas vrai partout, hein. Enfin, je veux dire, moi, je suis conseil scientifique d'établissement français du sang. Les gens vendent l'or ailleurs, les gens vendent le sang, le plasma, les organes, enfin, tout ça. Donc, nous sommes relativement préservés. Mais l'idée qu'être en bonne santé, avoir un corps en bonne santé, va avoir une valeur marchande, pour moi, est très ennuyeux. Ça, c'est bien ce que raconte un auteur que vous lisez peut-être, qui est Michel Houellebecq, sur ce monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir un corps en bonne santé est la valeur d'échange suprême, parce que c'est ce qui vous permet d'assouvir tous vos désirs égoïstes. Nous avons dans le journal Communio publié un très bel article d'un quelqu'un qui s'appelle Yann Rezon du Clozio, qui a pu démontrer de manière fort convaincante la qualité hiérophanique des scènes érotiques chez Houellebecq. Donc je vous en conseille la lecture. Et l'idée est celle-là, c'est qu'on demande un corps en bonne santé parce que c'est le bien marchand le plus valable aujourd'hui, le plus intéressant aujourd'hui. Donc la santé sans le salut, c'est un, qu'on demande à la médecine une l'immortalité, parce qu'elle aura du mal à vraiment fournir, et deux, que le corps est de plus en plus effectivement un bien marchand et qu'on demande cette santé parce que c'est une valeur d'échange. Donc on est bon en bonne santé et ça permet d'assouvir tout ce qu'on veut. Ça, c'est Houellebecq. Alors, il y a bien sûr des points communs entre la santé et le salut. Le premier, c'est que normalement, justement, on ne peut pas les avoir tout seul. Pour le salut, il faut aussi l'aide de Dieu. Pour la santé, ben normalement, il faut un peu sa génétique, un peu le système de soins, et puis un peu ses actes aussi. Mais c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, voilà. Alors, la santé, en effet, a comme avantage sur le salut que quelqu'un indique que c'était un droit, ce qui n'est pas tout à fait le cas du salut. Et que donc, comme c'est un droit, on peut le réclamer. Et donc, ça aboutit, je pense, à la fameuse remarque « quoi qu'il en coûte ». C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas du tout arrivé par hasard. Hein. Je vous rappelle la citation. « La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. » Quoi qu'il en coûte. Alors, ça, c'est très malin dans un système comme le nôtre. C'est-à-dire que quand on parle des systèmes de santé, en général, on distingue en Europe les systèmes qui ont une histoire bismarckienne, donc c'est la France, l'Allemagne, l'Autriche, hein, et les systèmes qui ont une histoire beveridgienne, donc c'est bien sûr le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne. Et dans nos systèmes, donc origine bismarckienne, les consommations de soins sont l'effet de décisions décentralisées des acteurs malades, des médecins. Il n'y a pas vraiment de budget, il y a un ONDAM, mais il n'y a pas vraiment de budget. Et donc, assez logiquement, dans une situation où on exige des soins, on exige qu'on sauve des vies, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les médecins vont bien donner les soins qu'ils jugent nécessaires, ils ne sont pas sous contrainte budgétaire. Ce qui est différent dans les systèmes anglais, on y reviendra. Et donc, le médecin va chercher à maximiser la probabilité de gain de santé de chaque individu. Ce qui est un peu embêtant, dans cette histoire-là, c'est qu'on répond bien sûr aussi aux souhaits des individus, de la population, en étant à la fois le président de la République et les médecins. Hein. Et bien sûr, nous avons tous une préférence pour le présent. Et donc, et là aussi, ça a été assez bien démontré dans le domaine de la santé, qu'on préfère, et on préférera toujours, des vies présentes bien identifiées à des vies statistiques dans le futur. Et donc, la décision qui est prise, mais qui, je pense, correspond vraiment à la demande du corps social, c'est qu'on préfère sauver des vies aujourd'hui pour des gens qui ont un nom, et là aussi j'y reviendrai à propos de l'Angleterre, au prix, et c'est ce qui se passe, de vies statistiques futures, mais qui sont des vies statistiques. Et là encore, je vous dis, il y a pas mal de travaux sur ça. Alors je pense que c'est vrai, des travaux en économie, il y en a en médecine, sur les vies statistiques versus les vies identifiées et la préférence des acteurs pour les vies identifiées par rapport aux vies statistiques. Alors, pourquoi est-ce que cette idée de la santé remplace le salut me semble dangereuse? Donc ça, c'est mon opinion. Je vois trois raisons, en fait. D'abord, c'est cette demande d'immortalité sur Terre qui est quand même un peu embêtante. Ensuite, c'est en renversant la proposition, l'idée que, vous voyez bien, le salut, si on ne l'a pas, c'est quand même embêtant, c'est la damnation. Hein. Et que donc, si on fait le parallèle, la santé-salut, ça veut dire que si on n'a pas la santé, c'est la damnation sur Terre. Et puis le troisième problème, c'est le fait que ça renforce bien sûr l'état Léviathan sans contre-pouvoir. La demande de soins, la demande de santé, c'est vraiment le problème pour moi. L'État ne fait pas trop la différence, ne s'engage pas trop justement là-dessus. On fait souvent la confusion. C'est accréditer l'idée aussi qu'on va pouvoir donner une sorte d'immortalité à la population. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, hein, ça on le sait. On ne sait pas faire. On sait prolonger un petit peu, mais pas quand même trop. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que ça risque de mettre un peu le pays en faillite. Alors le pays, le nôtre, c'est-à-dire que les Anglais, dans leur grande sagesse, ont mis une limite à ce que l'État devait payer pour maintenir une personne en vie une année supplémentaire. Alors quand je dis dans leur grande sagesse, vous allez voir que c'est une sagesse qui connaît quand même des limites. Donc si effectivement on regarde les manières dont les décisions sont prises pour mobiliser les moyens de la médecine, en Angleterre, donc je dis, ils ont dit voilà, on ne peut pas tout lâcher, et donc il n'y a pas d'obligation totale de moyens, contrairement à ce qui est un petit peu l'idée en France, pour soigner quelqu'un si on considère que ça coûtera trop cher. Et le ça coûtera trop cher, en fait ils ont donné une limite hein, qui était d'à peu près 50 000 euros. Donc, c'est de dire, voilà, vous pouvez soigner quelqu'un tant que le surcoût pour prolonger de un an la vie de cette personne n'excède pas 50 000 euros. Alors, c'est évidemment pas pour M. Smith, hein, c'est globalement pour une population qui présente les caractéristiques de M. Smith. On ne va pas dépenser plus que 50 000 euros pour cela. Alors, ce qui s'est passé, et c'est là où ça rejoint un peu la question immortalité au moins, c'est que ce n'est pas tenable. C'est qu'en fait, donc je disais, dans leur grande sagesse, parce qu'au moins, ils disaient, voilà, on s'arrête, on dit 50 000, on fait, et puis au-delà, on ne prend pas. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça marche sur des vies statistiques. Ça ne marche pas sur des vies identifiées. Et donc, il y a eu tout un tas de campagnes de presse pour dire qu'on ne pouvait pas refuser un traitement pour prolonger la vie de telle personne qui avait un nom, un prénom, une adresse et un âge. Et donc, dans ces cas-là, c'est panique à bord, évidemment. Et les Anglais ont été obligés de faire un peu marche arrière. Alors, c'était un peu faux cul, mais ils ont dit, voilà, On a la règle de 50 000, mais si c'est en fin de vie, on va aller un peu plus loin. Et donc, ils ont un petit peu reculé leur règle, mais ils tiennent quand même sur l'idée qu'il y a une limite. Alors, les Français, pas si bêtes, n'ont pas de limite, et donc, on est quand même beaucoup plus à l'aise, nous, avec ces sujets-là. Pourquoi est-ce qu'on est plus à l'aise avec ces sujets-là ? Parce que, comme je le disais, à partir du moment où vous refusez de traiter quelqu'un, de soigner parce que c'est trop cher, c'est absolument vécu comme la damnation. C'est-à-dire que si on ne peut rien faire de concret pour quelqu'un, et là, enfin, moi, je veux dire, les médecins, on est tous dans le même sac, hein, c'est vécu comme un échec terrifiant. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi on a tellement de mal avec tout ce qui va être soins palliatifs, etc. Parce qu'à partir du moment où on ne sait plus rien faire pour améliorer la vie biologique, on sent qu'on n'a pas du tout répondu à notre mission médicale et que ce qu'on fait est inutile, nul et tout ça. Et ça, et parce que à partir du moment où vous dites que la santé c'est le salut, il n'y a pas de santé, c'est la damnation. Et donc effectivement, là, on est tout à fait démunis. Ça explique aussi peut-être qu'on soit aussi mal à l'aise avec les problèmes des malformations gravissimes chez les nouveau-nés qu'on ne sait pas prendre en charge. Donc, si vous voulez, ça, c'est pour moi, c'est vraiment aussi un de ces corollaires du sujet santé-salut. C'est-à-dire que si on dit la santé, c'est le salut, on ne dit pas la maladie, c'est le péché, comme Rosé Mégol-Gardia, on dit pas de santé, c'est la damnation. Donc, effectivement, là, on est très, très mal à l'aise et très, très démunis pour faire quoi que ce soit. Alors, on a dit, la santé a-t-elle remplacé le salut ? Donc, quand j'ai demandé de l'aide à peu près toutes mes connaissances qui avaient le bac, ils ont tous dit oui. Alors, je dis, oui, d'accord, mais qu'est-ce que je fais dans les 44 minutes et 59 secondes qui restent ? Et donc, on a regardé aussi quels étaient... Est-ce qu'il y avait de la concurrence ? Ça, c'est directement issu de la manière dont on traite les questions en médecine, c'est-à-dire qu'on regarde toujours diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, est-ce qu'il y a de la concurrence à la santé ? Et est-ce que, finalement, cette concurrence est plutôt pire que la santé ? Alors, dans les... La concurrence pour le salut, bien sûr. Pour remplacer le salut. Dans la concurrence, moi, j'en ai trouvé deux. Mais là encore, toutes les idées sont bienvenues. J'ai trouvé les réseaux sociaux qui possèdent certaines caractéristiques de la divinité quand même. Hein. Ils sont partout, ils savent tout, ils sont tout puissants. Et puis, là aussi, c'est plus à l'inverse. C'est-à-dire que quand on n'y est pas, c'est la damnation. Donc, ça. Et puis l'autre, qui est probablement peut-être un peu plus sérieux, c'est, ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé à propos du libéralisme économique, c'est la globalisation. Et la globalisation a été souvent présentée comme une sorte d'eschatologie païenne. C'est, voilà, tout sera vraiment pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Et là encore, ça remplace le salut, quoi, sur Terre. Alors, pas pour tout le monde, à mon avis. Ça suppose quand même... qu'il y a une certaine égalité entre les individus et que ça suppose aussi que l'individu n'est qu'un agent économique. Et on élimine un tout petit peu la notion de transcendance à partir du moment où on considère que la globalisation va assurer le bonheur sur Terre. Alors maintenant... Et c'est donc ma conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc moi, je trouve que c'est en effet ennuyeux que la santé ait remplacé le salut. Alors, évidemment, ça suppose qu'on croit au salut. Hein. J'aurais dû commencer, et j'en suis désolée, par faire ce qu'on fait aussi dans les conférences médicales, qui est les déclarations d'intérêt. Donc, effectivement, je suis médecin, effectivement, je suis catholique, donc c'est plus facile de parler du salut dans ces conditions-là. Cela dit, même lorsqu'on ne croit pas au salut, on peut croire à la transcendance, on peut croire à l'importance de la vie spirituelle. Et donc, je pense que ça n'exclut pas les personnes qui ne croiraient pas particulièrement au salut. Donc je pense que le fait que la santé remplace le salut est un marché de dupes. C'est un marché de dupes parce qu'on ne peut pas avoir la santé. On ne peut pas la proposer à tout le monde. C'est inatteignable. Comme j'ai dit, c'est vraiment une grosse ânerie de penser que c'est un droit. Ensuite, on a bien vu que préserver la santé pouvait nécessiter des restrictions de liberté individuelle. Ok, ça c'est le rôle de l'État Léviathan, hein. Éventuellement des restrictions des rites et de ce qui pour certains est quand même une part importante de la vie et de la santé. Je pense qu'on ne peut pas imaginer en fait une santé sans salut ou sans transcendance ou sans vie spirituelle ou sans croyance dans quelque chose dans l'humanité qui n'est pas seulement biologique et sans respect de la dignité que l'on voit chez l'autre. Et ça, on ne sait pas le faire très facilement, juste avec la santé. Je pense que les médecins, nous avons une responsabilité un peu là, très matérielle, hein, très, très, très banale, mais le fait que nous ayons complètement séparé la santé mentale de la santé somatique dans les hôpitaux, dans le mode de financement des hôpitaux, donc géographiquement, intellectuellement et tout ça, c'est pas très malin en fait, parce que ça a vraiment accrédité l'idée qu'on pouvait remettre quelqu'un en forme biologiquement sans qu'il y ait de pendant spirituel. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un petit peu ennuyeux. Et l'autre aspect vraiment ennuyeux, et là aussi, je pense que c'est votre académie qui est particulièrement bien placée pour réfléchir, c'est qu'il faut un contre-pouvoir à l'État. C'est-à-dire que je suis très contente que l'État assure la santé publique. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait de l'eau propre qui coule au robinet, que la nourriture que nous mangeons ne nous empoisonne pas à chaque seconde. Voire c'est très bien qu'il n'y ait pas des bandits embusqués à chaque coin de rue pour nous assassiner. Mais il faut un contre-pouvoir. Il ne faut pas que, finalement, nous remettions toute notre santé dans les mains de l'État. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait cette idée que quelqu'un doit s'assurer du salut ou de ce qui en tient lieu et que ce quelqu'un soit complètement distinct de l'État. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de santé sans salut ou sans transcendance ou sans croyance en la dignité de l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, vous voyez, il y a cette idée qu'on n'est pas, que la santé est quelque chose d'égoïste. On cherche à être en bonne santé, soit, tandis que normalement, là aussi, chez les catholiques, on prie pour le salut du monde. Donc, il y a un petit peu cette idée vaguement altruiste qu'on va faire aussi le bien des autres par le salut. Alors, je pense que ce qui est intéressant pour un groupe, une académie comme la vôtre, c'est de réfléchir sur le processus qui a amené ça. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est-à-dire pourquoi? Je vous ai donné des coïncidences, mais pas des corrélations et pas des causalités. Le fait que les médecins sont plutôt bons, qu'il y a de la perte de spiritualité, qu'il y a du libéralisme économique, donc tout ça arrive en même temps. Mais pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà un petit peu pour moi ce que sont les sujets de réflexion. Et ma conclusion, c'est que la santé ne peut pas assurer l'immortalité, ne peut pas remplir le rôle du salut, ne peut pas garantir une vie spirituelle riche et que donc il faut vraiment trouver un moyen d'y remédier autrement. Merci.
Eh bien, je vous remercie. de nous avoir fait bénéficier de votre triple compétence médicale, économique et spirituelle, si je puis dire. Votre exposé, d'une certaine manière, est un défi que vous nous lancez, puisque à plusieurs reprises, vous avez fait remarquer que ça serait à notre académie de réfléchir aussi sur ces questions, et pas seulement à l'Académie de médecine. Alors, il est regrettable d'ailleurs que nos deux médecins, puisque deux de nos membres sont médecins, soient absents. André Vacheron, puisqu'il est lui-même entre les mains de ses collègues, si je puis dire, et Jean-François Mattei, qui, pour des raisons que j'ignore, n'a pas pu être des nôtres en ce moment. Mais je suppose qu'il y a parmi nous des gens qui ont envie de relever ce défi dès maintenant. Il y a déjà au moins deux questions, peut-être y en a-t-il d'autres. En tout cas, Pierre Delvolvé, je crois, est le premier à avoir demandé la parole.
D'accord. Restez là. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame, aussi, pour cet exposé très riche qui conduit à des questions fondamentales. Questions fondamentales qui sont celles des rapports entre l'homme et la vie, entre l'homme et la société, entre l'homme et l'État. L'homme et la vie, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, autant que l'homme et la mort, les deux aspects étant étroitement liés. Et par conséquent, ce sujet, même si vous, je crois que vous avez employé le mot une fois, ce sujet conduit à la question de la transcendance. Et c'est au regard de la transcendance que, me semble-t-il, vous avez essentiellement traité le sujet, en affichant d'ailleurs très exactement les couleurs, ce qui est tout à votre hommage. Enfin, il faut rendre hommage à ce sujet. C'est une question fondamentale. Et on ne peut pas traiter des questions se rapportant au traitement de la mort, qui est lui-même lié à la santé, sans avoir une réflexion théologique, en tout cas, sans se référer à des questions transcendantale, c'est ce que vous avez fait. Alors, l'homme et la société, vous avez à plusieurs reprises souligné que les conceptions générales, les conceptions du corps social, vous l'avez dit, sont très importantes dans la détermination des solutions à apporter aux soins. Et vous avez dit que la société actuelle a une conception marchande de l'homme. L'expression est très forte, très très forte. Alors je pense à des époques plus anciennes, peut-être pas complètement d'ailleurs. Je pense au commerce des esclaves. L'esclave a évidemment une valeur marchande et on sait que sur les marchés d'esclaves, les acheteurs examinaient la santé, l'état des dents des esclaves, comme on le fait pour l'achat de chevaux, par exemple. Mais de nos jours, ce n'est pas une valeur marchande de l'individu, un à un, qui est en cause. C'est quand même la bonne santé d'une population qui est déterminante pour des opérateurs économiques, et je ne les condamne pas, mais pour savoir s'ils peuvent s'installer dans un pays et avoir une main-d'œuvre capable d'assurer les fonctions économiques, enfin les fonctions dans une entreprise, et cela c'est une considération générale. On ne va pas parler de la valeur marchande d'une population, mais on va parler de la situation sanitaire d'une situation pour déterminer si elle répond aux exigences du fonctionnement d'une économie. Alors la troisième question qui peut-être me conduit à être un peu plus long, mais Monsieur le Président, vous me couperez, c'est celle des rapports entre l'homme et l'État, qui a été dès le départ le point le cœur de vos développements. Ce n'est pas une nouveauté que l'État intervienne pour la protection de la santé, plus généralement les pouvoirs publics. Nous avons eu des épidémies et nous savons, grâce à des écrits savants, que dans des périodes anciennes, les pouvoirs publics ont essayé de lutter contre l'épidémie par des moyens qui ne sont pas ceux que nous avons aujourd'hui, mais la quarantaine en est l'illustration la plus élémentaire. Donc, c'est depuis toujours un rôle des pouvoirs publics d'intervenir en matière de santé. Je ne vais pas reprendre, mes confrères juste à ma droite connaissent bien les dispositions sur le pouvoir de police qui a pour objet d'assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité. Et la santé est au cœur de la salubrité et c'est une fonction qui depuis longtemps est reconnue comme devant être assurée par les pouvoirs publics. Et donc l'État, et surtout aujourd'hui avec les moyens nouveaux dont il dispose, l'État est évidemment un rôle important au regard de la santé de la population au titre de sa fonction générale de veiller à l'ordre public, dont fait partie la santé publique. Mais la question aujourd'hui du degré d'intervention de l'État se pose au regard, et c'était votre point de départ, d'un droit. Et vous avez relu la charte de l'Organisation mondiale de la santé sur le droit, non pas à la santé, mais le droit à la protection de la santé, ce qui est très différent, et c'est une formule qui est d'ailleurs reprise dans la jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. On ne peut pas exiger de l'État ou des autres qu'on obtienne la santé, mais qu'on prenne les mesures pour assurer la protection de la santé. Et il me semble que vos développements étaient essentiellement centrés sur la contradiction, en tout cas la relation entre l'État et le droit à la protection de la santé, ce droit permettant de revendiquer de l'État un certain nombre de mesures. Mais je ne crois pas, j'espère pourtant avoir été attentif, et avoir entendu de votre exposé le terme « liberté », qui est aussi fondamental pour déterminer les limites de l'intervention de l'État, ou l'absence de limites dans la période actuelle éventuellement. Et je crois que le conflit, en tout cas, la relation essentielle aujourd'hui, est entre le droit, les droits des individus, le droit à la protection de la santé, et la liberté dont disposent également les individus. C'est la question qu'on n'a pas cessé de poser pendant la période de d'épidémie, jusqu'à quelle limite l'État peut-il aller dans les mesures qu'il prend pour lutter contre l'épidémie, pour restreindre la liberté des individus et assurer la santé publique, et au titre du rôle général de l'État et au titre du droit de chacun à la protection de la santé. Et c'est tout le problème actuel, très actuel, avec les questions qui ont été posées et le débat au Parlement s'agissant du pass qui de sanitaire est devenu vaccinal. Que peut-on imposer aux individus pour assurer en réalité leurs droits? Et on l'a vu. On l'a vu dans le contentieux administratif. L'une des premières requêtes présentées au Conseil d'État au mois de mars 2020 était celle d'une association de jeunes médecins qui, au titre de la protection de la santé des particuliers, revendiquait que soit ordonné par le Conseil d'État au gouvernement de prendre des mesures beaucoup plus contraignantes, des mesures de confinement beaucoup plus totales, pour ne pas dire totalitaires. Le Conseil d'État était plus mesuré dans la mesure qu'il a rendue, l'ordonnance du 22 mars 2020, il a quand même demandé au gouvernement, ordonné, c'est tout un problème d'ailleurs, au gouvernement de préciser les conditions, les conditions sanitaires dans le cadre du confinement. Mais vous avez là caractère presque extrême du conflit entre la revendication de droits et donc de mesures de la part de l'État et le respect de la liberté des individus. Alors, ce n'est pas une question que je pose, Monsieur le Président, c'est une intervention. Je crois qu'on peut parler quand même sans poser des questions. Mais alors, si je vais en poser...
Nous l'attendions impatiemment.
Et bien la voilà, elle découle de ce que je viens de dire. Pourquoi n'avez-vous pas insisté sur la liberté?
Bravo. Alors, en fait, mais de manière trop allusive, quand j'ai parlé de... Parce que quand même, le sujet, c'était le salut, des rites de l'enterrement. C'est-à-dire liberté de culte.
Oui, mais c'est pas la seule. Elle
certes, mais en gros, c'est celle qui avait un vague rapport avec la question du salut. C'est-à-dire que, vous voyez, cette idée-là, quoi. Qu'en effet, la liberté... Alors, c'est la liberté de religion qui est en haut dans la hiérarchie des normes, si je me rappelle bien. Et puis, la liberté des cultes en découle. Et effectivement, sur les mariages, les enterrements, surtout les enterrements, quoi. C'était surtout là-dessus que je pouvais effectivement rejoindre mon sujet.
Mais pas forcément la liberté de culte.
Non, je suis d'accord. Mais c'est là-dessus que je pouvais à peu près rejoindre le sujet du salut. Voilà.
Merci. Thierry de Montbrial avait une question.
Merci beaucoup. Ce sera effectivement une question. Mais tout d'abord, je voudrais dire quand même que j'ai été assez très touché par votre communication, qui est très riche, mais j'ai également été très touché par l'humilité dont vous avez fait preuve en la présentant. Alors, il me semble que vous avez traité le sujet dans une perspective très contemporaine, bien entendu, qui, à mon sens, signifie peur de la mort, la peur de la mort, et ou peur de la souffrance, qui n'est pas exactement la même chose. Et en vous écoutant, je pensais parfois qu'il peut être intéressant de se reprojeter très très loin dans l'histoire, et je pensais, alors pardon Monsieur le Président, mais à la philosophie grecque, ou dans ce dont je peux m'en souvenir, et je pensais au héros de Homère, pour qui la belle mort est par lui-même un acte qui est celui par lequel la mémoire des hommes conservera votre souvenir. C'est évidemment une approche totalement différente du sujet. Parfois, je me demande, c'est peut-être iconoclaste, si Socrate, en buvant la ciguë, n'a pas fait cette démarche-là, précisément, c'est-à-dire choisir cette forme de mort. Et il se pourrait, d'ailleurs, que cette mort soit l'une des raisons les plus fondamentales, peut-être, pour lesquelles on s'en souvient, avec tout le message dont il s'accompagne. Et évidemment, lié à ça, la version duale de la même question, c'est le suicide. Parce que le suicide de désespoir et la mort volontaire, comme dans le sens homérien, ou la mort volontaire des personnes qui classiquement donnent leur vie au combat, par exemple, mort pour la France, hein, ça existait. Bon, j'appelle pas, c'est pas un suicide, c'est une mort volontaire, mais sur deux versants différents. Alors, et puis naturellement, le stoïcisme d'une manière générale. Voilà. Alors, ma question, parce que c'en est une. C'est est-ce que derrière toute la façon dont vous avez approché le sujet, il n'y a pas cet aspect des civilisations contemporaines, en tout cas la civilisation occidentale contemporaine, qui est la peur de la mort, ce qui est lié sûrement à la perte de la notion de salut, de transcendance, etc. Mais au fond, ces héros homériens, quel type de transcendance y avait-il derrière leur choix, puisqu'on naît involontairement, pourquoi ne pas choisir une belle mort?
Oui, alors sur la philosophie antique, je laisserai en effet Rémi répondre, mais c'est sur ce sur quoi j'avais essayé de réfléchir un tout petit peu. Sur la partie sur le suicide, là, ce que j'ai essayé de dire quand je disais, voilà, l'envers de la médaille, c'est à partir du moment où on se dit la santé, c'est le salut, si on l'a pas, c'est la damnation et rien ne vaut, quoi. Si on ne peut pas mettre au monde des enfants en bonne santé, c'est pas la peine de les mettre au monde, puisque maintenant on peut le choisir. Et si on est malade, c'est pas la peine de vivre. Et ça, bah, en fait, c'est aussi ce que raconte Michel Houellebecq. Enfin, voilà, si on n'est pas super beau et tout ça, c'est pas la peine de vivre. Sur le martyr, sur les héros, est-ce que c'était comme ça chez les Grecs? Vous voyez bien que la vision qui a été la vision chrétienne au moins, je pense, des trois premiers siècles, c'est qu'on acquiert le salut par le martyr, mais c'est le martyr de soi tout seul, quoi. Et c'est pas en allant tuer plein d'autres gens en même temps qu'on gagne son salut. Bien sûr, on meurt dans la bataille, hein, mais vous voyez, il y a quand même pour moi cette différence. Mais je ne saurais pas trop aller plus loin, parce que vraiment, je n'ai pas du tout les bases philo pour faire ça. Mais moi, sur la partie santé-salut, je voyais plutôt, effectivement, si on n'a pas la santé, c'est tellement horrible qu'autant se suicider. Oui. Et c'est effectivement... Mais c'est tout ce qui va avec... Je vous dis, le fait que les médecins pensent souvent que quand on ne peut rien faire pour les fonctions biologiques, on abandonne, quoi. On ne sait pas rien proposer d'autre. Et ça, c'est là où les associations caritatives, je pense... ont vraiment tout leur rôle d'aide des gens, d'aide à l'hôpital et tout ça. Mais là, c'est au-delà de mes compétences philo.
Merci. Sur la mort volontaire, nous aurons un exposé de Madame Jenny Raflick à propos de ce qu'on appelle les kamikazes et un peu de manière injuste, enfin, inadéquate, les terroristes qui se font sauter. Bon, donc, je vous demande de patienter jusqu'à cet exposé. Michel Pébreau avait une question.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier notre oratrice pour cet exposé qui démontre complètement à quel point certains médecins peuvent être les vrais humanistes de notre époque. Je crois que c'est un sujet difficile et c'est un sujet que, en effet, seul un médecin peut traiter complètement. Je vais malheureusement sortir de ce registre pour aller sur le terrain économique qui m'est plus familier. Vous avez mentionné que l'une des caractéristiques du système britannique, c'était qu'il avait fixé en quelque sorte un prix à ne pas dépasser pour sauver une vie. Et le système britannique est, à ma connaissance, avec le système allemand, un des rares systèmes publics qui, sur le plan économique, soit équilibré. C'est-à-dire que les dépenses sont couvertes par les recettes. Il y a un système dans lequel il n'y a pas de limite au prix à payer pour sauver quelqu'un, c'est le système américain. C'est un système dans lequel la caractéristique du système est que c'est le plus coûteux en pourcentage du produit intérieur brut du monde, le deuxième étant le système français. Il faut le reconnaître, qui, sur le plan de l'efficacité, n'a pas les mêmes résultats que le système américain, mais qui fonctionne tel qu'il fonctionne. Et dans le système américain, en effet, il n'y a pas de limite, simplement c'est le libéralisme, c'est-à-dire qu'il faut que l'individu paie pour être sauvé. Alors, la comparaison avec le salut, d'une certaine façon, je vais faire un petit peu d'anticléricalisme, bien que je sois catholique militant, dans le système du salut, c'est qu'il y avait les indulgences qui permettait de se rassurer. Et donc, il y avait un système plus proche du système américain que du système britannique. Et ma question était de savoir, qu'est-ce que vous souhaitez pour le système français? Alors, en ce qui concerne le système français, je voudrais simplement signaler que sa première caractéristique était qu'on disait, lorsque j'enseignais l'économie, que la santé n'avait pas de prix. Aujourd'hui, notre président de la République s'est engagé sur la voie du « quoi qu'il en coûte ». Alors, lorsque j'enseignais l'économie, on était aussi dans une période dans laquelle, soucieux d'assurer la bonne gestion des finances publiques, les fonctionnaires du ministère des Finances avaient inventé un système qui s'appelait la rationalisation des choix budgétaires. Et dans ce système, on avait fixé un prix pour la vie humaine qui permettait de calculer à partir de quel moment la construction d'une autoroute n'était pas fondée, parce que le prix qu'elle impliquait pour la vie humaine était trop élevé. Aujourd'hui, ce prix serait fortement abaissé, puisque les limitations de vitesse font que la vie humaine est beaucoup moins fréquemment affectée qu'elle l'était à l'époque. Alors, est-ce que vous pensez que fixer un prix pour la vie humaine nous permettrait aux médecins de retrouver une forme de rationalité dans les choix qu'ils ont à faire par rapport à celui très général qui est le leur, qui est d'essayer de faire en sorte que leurs patients vivent aussi longtemps que possible, mais aussi avec une santé aussi satisfaisante que possible?
Alors, vous avez raison de rappeler que les Américains ne veulent pas de limites, c'est même dans la loi chez eux. Enfin, le Affordable Care Act, ils ont même explicitement refusé qu'on mette un seuil sur ce qu'on paierait pour prolonger de un an la vie d'une personne. Alors, quand on avait commencé à travailler justement en économie de la santé sur comment valoriser les années de vie, la première source bibliographique était naturellement celle de Bercy et de la rationalisation des choix budgétaires. La valeur qui avait été donnée à l'époque nous a paru très, 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 très faible par rapport à ce qu'on faisait déjà en médecine. Et donc, cette piste-là a été assez rapidement abandonnée. Donc, en France, en effet, nous n'avons pas de seuil, mais ex post, on peut reconstruire un peu les choses. En gros, on paye un peu plus de 200 000. Dans le passé, on a payé un peu plus de 200 000 euros pour prolonger de 1 an la vie d'une personne. Et maintenant, avec les nouveaux traitements, on arriverait plutôt vers 500 000 euros pour prolonger de 1 an la vie d'une personne. Alors là encore, c'est dans la loi que les résultats des travaux qui sont produits là-dessus par la Haute Autorité de Santé ne servent pas à la fixation des prix en France. Le comité économique des produits de santé les utilise, les regarde, mais il n'y a pas, contrairement à ce qu'il y a en Angleterre, de lien automatique entre j'admets un médicament au remboursement et son prix est en dessous de temps. Donc en France, c'est la loi qui a refusé ça, qui est un seuil, ce qui n'est pas bête parce que l'ancien président du comité économique des produits de santé disait bien que comme les industriels du médicament sont pas plus bêtes que nous, ils savent très bien poser X le prix du médicament et résoudre l'équation de sorte que tous les prix des médicaments sont tous au seuil le plus élevé possible. Et donc la France a préféré la négociation en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite qu'on garde cette marge de manœuvre de négociation parce que je pense que les gens qui sont au comité économique font extrêmement bien leur travail. Si ça pouvait être un tout petit peu plus transparent, ce serait mieux. Mais le risque de la transparence, c'est quand même la stigmatisation. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive aux Anglais, quoi. C'est de dire, vous avez pris tel traitement, ça a coûté 500 000 euros à la collectivité, et puis regardez, vous n'avez même pas réussi à survivre, quoi. Je pense qu'on est vraiment en train de naviguer dans des eaux difficiles. Donc je suis désolée, je n'ai pas trop de réponses plus affirmatives que cela.
Merci. Pierre-André Capory.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi vous remercier pour cette présentation. En particulier, j'ai été très sensible au fait que vous souligniez qu'il y a des questions qui sont posées par les médecins, mais qui profondément ne sont pas des questions purement médicales, sont des questions sociales et qui doivent être décidées à un niveau social et donc peut-être par une délibération un peu plus large que celle des seuls médecins. D'abord, je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Michel Pébrot. Un des grands avantages de fixer un prix d'une vie humaine, quel que soit ce prix, c'est d'assurer une cohérence entre les diverses réglementations. En sens inverse, un article célèbre en économie de la santé que vous connaissez certainement, qui est de Kip Viscusi, a fait le tour d'un certain nombre de réglementations, pas seulement médicales, des réglementations en matière de produits chimiques, en matière de sécurité, en calculant pour chacune des réglementations le coût économique de la vie humaine qui était nécessaire pour la justifier. Et ce qui était hallucinant, c'est que ce coût allait de quelques dizaines de milliers de dollars à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y avait des réglementations qui coûtaient une somme énorme par vie humaine, alors même que d'autres réglementations auraient pu sauver 100, 200, 500 vies pour le même montant. Et en fait, je crois que l'idée d'un coût de vie humaine, si difficile que ce soit accepté, ça permet de matérialiser cette idée que quel que soit le seuil, au moins il faudrait avoir une cohérence dans l'application de ce seuil pour les différentes réglementations. Alors maintenant, ma question, vous avez parlé de contraintes budgétaires. Enfin, vous êtes économiste, donc vous savez qu'il y a toujours des contraintes. Alors, ce n'est pas des contraintes budgétaires nécessairement, mais c'est des contraintes de rareté parce que les ressources ne sont pas infinies. Je voudrais prendre deux exemples là-dessus. D'une part, les organes, les dons d'organes. Et on sait bien qu'il y a des gens dont la vie pourrait être sauvée s'ils avaient accès aux reins, au cœur, au foie dont ils ont besoin. Mais ils n'ont pas accès et ils meurent simplement parce que ces ressources rares sont allouées à d'autres gens qui sont considérés comme plus prioritaires. Et le deuxième exemple, c'est la première vague de Covid en France, dans laquelle il y a eu, disons le mot, du triage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient pu être sauvés s'ils avaient été transférés en hôpital et qui ne l'ont pas été parce qu'on ne voulait pas engorger les hôpitaux. Alors moi, ce qui me frappe, c'est la différence complète de traitement entre ces deux situations. Dans le cas des transplantations, il y a des règles. En particulier, les questions que pose la transplantation, c'est que vaut une vie humaine par rapport à une autre vie humaine? Doit-on tenir compte de la structure familiale? Faut-il privilégier un père de famille à un célibataire? Faut-il privilégier un chef d'entreprise à un chômeur? Faut-il privilégier un jeune ou un vieux? Ce qui pose des questions différentes parce que les probabilités de survie, le nombre d'années est différent. Ce sont des questions sociales et qui, dans une large mesure, certainement aux États-Unis mais aussi en France, reposent sur des critères qui sont, je dirais, assez largement acceptés et qui sont ouverts à la discussion. Dans le cas du Covid, on a eu quelque chose comme ça aux États-Unis, au sens où les critères de triage avant le moment le plus aigu de la crise ont été discutés publiquement. Il y a des réglementations. D'abord, il y a eu dans la communauté des éthiciens ou éthicistes, je ne sais pas quel mot français parce que c'est une profession qui n'existe pratiquement pas en France, mais dans la communauté, il y a eu des discussions sur ça pour savoir exactement quels étaient les critères et en fait comment définir la valeur d'une vie humaine par rapport à une autre vie. Par exemple, que fait-on des handicapés, que fait-on des personnes à mobilité réduite, que fait-on pour les handicapés mentaux, dans quelle mesure l'âge peut-il compenser un handicap, etc. C'est des questions que les médecins doivent voir, mais ce n'est pas des questions médicales, c'est des questions sociales, c'est des questions qui portent sur notre système de valeurs. Aux États-Unis, ça a été discuté, il y a eu des articles dans le New York Times, il y a eu des réunions, etc. Ce qui me frappe en France, c'est que non seulement on n'en a absolument pas parlé avant, mais on n'en parle même pas après. Le fait qu'il y ait eu du triage, ça commence à sortir maintenant dans les journaux parce que des médecins racontent leur expérience. Tous les gens qui ont travaillé au SAMU savent qu'il y avait des instructions disant à partir de tel âge, et l'âge redescendait un peu en fonction de la crise, vous ne transférez pas. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre exposé, c'est précisément ça. Alors, vous parlez de l'État, est-ce que ça doit être l'État? Est-ce que ça doit être les associations professionnelles? Est-ce que ça doit être des gens comme les corps des éthicistes qui n'existent pas, etc. Mais cette idée, moi, ce qui me frappe en France, c'est, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, transparence, l'absence complète de transparence qui a présidé dans des décisions de vie ou de mort qui ont été prises dans l'épidémie de Covid. Je voudrais juste rappeler que l'an dernier, sur la santé, le directeur du SAMU de Paris est venu nous parler, il nous a fait un exposé remarquable, à aucun moment il n'a parlé de triage, alors que tout le monde savait qu'il y avait eu du triage. Et cette espèce de silence. Alors, je voulais savoir quelle était votre réaction en tant que médecin et en tant qu'économiste, donc vous avez à ce genre de situation.
Alors, je reviendrai après sur votre premier point qui était sur ce qu'on appelle les leak tables, là, mais sur l'allocation des ressources des organes, en fait, je voudrais juste. En fait, ce qui se passe sur les organes, on est très bon parce qu'on a eu le temps, quoi. On a eu le temps d'y réfléchir, on a eu le temps de poser des règles, on a eu le temps de les discuter. Et effectivement, ça fait un bout de temps qu'on fait de la transplantation d'organes, surtout le rein, hein, c'est des gens engorgés. Donc, on a eu le temps sur le Covid et aux États-Unis. Là encore, en fait, ce qui est frappant, c'est que mes collègues américains, ils ont eu le choc, eux, en pleine figure de l'ouragan Katrina. Et donc, moi, j'ai plein d'amis à la Nouvelle-Orléans, en fait, collègues à la Nouvelle-Orléans, ils s'en sont toujours pas remis. Hein. C'est-à-dire que eux, c'est là où ils ont dû faire du triage, mais vraiment, parce que leur hôpital, donc un grand truc là, qui a été inondé en 5 secondes, plus d'électricité, plus rien. Et les petits hélicoptères pour évacuer les patients de réanimation, ils en prenaient 2 à la fois, les patients de réa, et qu'on ventilait à la main. Donc, ils ont fait du triage, ça c'est su, il y a eu des procès. Il y a le chef de service de Réa qui a eu un procès parce que ils avaient laissé mourir des gens. Et donc, Katrina, ça fait quoi, plus de 10 ans? Et donc, pour eux, ça a été le choc suprême parce qu'on est le pays le plus riche du monde, on s'est transporté des troupes au bout du monde et tout ça. Et pourquoi on n'a pas réussi à évacuer nos malades avec que un petit hélicoptère qui en prenait 2 à la fois? Et donc, ils ont eu 10 ans, je pense, pour mouliner un peu tout ça et se mettre au point une doctrine. Nous, avec le système bismarckien, c'est quand même open bar. Hein. Donc, on n'a jamais eu trop à réfléchir là-dessus. Sauf pour les organes, vous avez parfaitement raison, et c'est là où on s'est forgé une doctrine de liste, etc. Et alors, sur les leak tables, donc ça, effectivement, c'est un grand registre, c'est super rigolo, un grand registre qui regarde pour toutes les interventions combien on paye pour gagner une vie supplémentaire, enfin pour épargner une année de vie supplémentaire. Donc le jackpot, c'est sécurité nucléaire, sécurité industrielle, hein. Très très au-delà même de tout ce qu'on fait en médecine. Et ensuite, en médecine, ben, sont des sujets, et c'est là où, enfin, je pense qu'il faut être, on peut être transparent, mais il faut pour moi, il ne faut pas uniformiser. Ce sont des sujets sur lesquels ça reflète une terreur sociale. Donc les interventions les moins coût-efficaces, donc là on est à plusieurs millions par année de vie, c'est la sécurité transfusionnelle. Et ça fait depuis que je suis en médecine que c'est comme ça. On nous avait demandé un travail là-dessus du temps de Bernard Kouchner. On l'avait montré, mais évidemment, jamais un ministre de la Santé ne va mégoter sur la sécurité transfusionnelle. Quoi. On vit cette histoire-là depuis que je suis interne. Donc voilà. Mais pour moi, c'est relativement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça ne sache pas. Mais ce qui est normal, c'est que finalement, je me dis, les ministres sont payés pour ça. C'est-à-dire que si c'était moi qui vous donnais la liste, et puis je dis, ben voilà, je multiplie juste par le nombre de malades, et puis je tire un trait quand on a fini le budget, ben c'est la technocratie et c'est très vilain. Dans un système démocratique, normalement, je pense que le politique est là pour dire non, on va tout mettre sur la sécurité transfusionnelle, rien sur l'Alzheimer, parce que, en fait, c'est pas vrai d'ailleurs, on va tout mettre sur la sécurité transfusionnelle et rien sur l'insuffisance respiratoire, parce que la population veut de la sécurité transfusionnelle. Vous voyez, mais en revanche, là, sur les league tables, moi, je trouve que c'est très, très bien de les montrer et d'en discuter. Et on veut de la sécurité industrielle et on veut de la sécurité nucléaire. Hein, et c'est là-dessus. Quoi. Mais moi, je suis sur la... Enfin... Là encore, vous avez vu tous mes collègues l'an dernier, l'idée de faire des choix est répugnante aux médecins. Hein. Donc, à un moment, il faut que ce soit la société qui nous dise, voilà, réfléchissez avec d'autres personnes. Moi, je pense qu'en effet, il faut d'autres. Et je vous dis, les collègues américains, le traumatisme Katrina, là, qui arrivait dans le pays le plus riche du monde, le plus puissant du monde, le leader du monde libre et tout ça, ils sont toujours parmi.
Merci. Bernard Stirn.
Merci, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de cet exposé qui était, comme les confrères l'ont déjà dit, extrêmement intéressant, parce qu'il mêle beaucoup de préoccupations à la fois médicales, économiques, juridiques, et il nous met au cœur de ces grandes interrogations sur la vie et la mort. Alors, d'abord, une observation que je voulais faire, c'est question de prix de la vie. Elle se pose aussi devant le juge quand il s'agit notamment d'accorder des dommages intérêts aux personnes, aux ayants droit d'une personne décédée. Et quelle est la somme qui va être allouée en réparation, si tant est qu'on puisse réparer, d'un décès. Donc c'est une question assez familière aussi dans l'exercice des juridictions. Mais je voulais surtout prolonger un petit peu notre réflexion commune, nos regards croisés sur ces questions de vie et de mort, en vous interrogeant sur deux sujets qui sont vraiment directement liés à la mort et à la vie, qui ont une dimension juridique importante, qui ont donné lieu à des débats contentieux, à des réflexions législatives. Ce sont les questions à la fois de fin de vie et d'insémination post-mortem. Est-ce qu'on peut donner la vie après la mort ? Sur ces deux sujets, sur le premier, il y a eu le déroulement difficile de l'affaire Vincent Lambert, qui a posé beaucoup d'interrogations, l'équilibre législatif trouvé par la loi Claeys-Leonetti. Et lorsque l'an dernier, le Parlement a voté la loi de bioéthique, le choix a été fait de ne pas remettre le sujet sur la table. Il y a des propositions de loi qui circulent, vous le savez, sur ces sujets-là. Il faut s'en tenir à ce que prévoit aujourd'hui la loi, c'est-à-dire la possibilité pour un médecin de décider un arrêt de traitement en cas d'obstination déraisonnable après un dialogue avec la famille, sans ouvrir, comme l'ont fait d'autres pays, parler de suicide volontaire, des possibilités pour une personne de décider de mettre fin à sa vie. Et de même, la loi de bioéthique n'a pas du tout abordé, bien que ça ait été également évoqué au Parlement, la question d'un éventuel assouplissement de la loi française qui interdit totalement aujourd'hui l'insémination post-mortem, alors que dans d'autres pays, notamment en Espagne, lorsqu'il y a un projet parental conçu avant le décès du mari et dans un certain délai, il est tout à fait possible de procéder à une insémination post-mortem. Alors sur ces sujets-là, qui sont assez proches des grandes interrogations philosophiques, éthiques, peut-être religieuses sur le salut, juste à voir si un petit peu vos réactions. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait songer à faire évoluer les législations, ou est-ce que l'équilibre actuel vous paraît satisfaisant?
Merci. Alors, juste sur votre première remarque sur les dommages, en fait, on a regardé ça aussi. Le problème des dommages des assurances, c'est qu'évidemment, ils sont inégaux selon qui était la personne. Donc, quand il y a un avion qui tombe, le sénateur, la famille du sénateur n'aura pas tout à, aux États-Unis, n'aura pas tout à fait la même compensation que la famille de l'ouvrier. Donc, ça pour nous, ça ne marchait pas. J'ai aussi des collègues qui sont amusés à regarder si, pour avoir le prix d'une vie, on regarde une jambe x2, un bras x2, enfin, etc. Bon, voilà. On aboutit à des résultats qui ne sont pas tout à fait cohérents avec nos chiffres. Alors, sur la fin de vie, imaginez-vous, j'avais été auditionnée par la commission à l'époque sur un sujet qui était un peu comme ça, un peu parallèle, mais ils voulaient savoir, en fait, il y avait des gens qui pensaient que ce serait un bon mode d'entrée de dire qu'on réduisait les dépenses avec les directives anticipées. C'est archi faux. Hein. Et l'idée que... Ah oui, il y a plein de chiffres faux qui circulent sur les dépenses de la dernière année de vie. Donc, ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le tiers, c'est 10%. Donc ça, l'assurance maladie l'a bien établi. Donc, les dépenses de la dernière année de vie, ça représente à peu près 10% des dépenses cumulées de la vie. Et puis, après, l'idée d'arrêter, c'est un peu idiot parce que c'est comme enlever le dernier wagon du train parce que c'est toujours là où il y a l'accident, quoi. En gros, ce qui est le mieux corrélé avec la gravité d'une maladie, c'est le risque de mourir. Et donc, effectivement, si on a un risque élevé de mourir, c'est qu'on est très malade. Si on est très malade, c'est qu'on a très besoin d'être soigné. Donc, il y a quand même un moment... Enfin, je trouvais que les raisonnements se mordaient un peu la queue. Mais surtout, les quelques études américaines disponibles là-dessus... Ils ont comparé des hôpitaux avec et sans directive anticipée. Enfin, ils ont essayé d'ajuster vaguement quoi, les malades, parce qu'évidemment, on ne peut pas randomiser, mais ça ne change rien. Quoi. Ça change rien. Donc ça, c'était pas un bon mode d'entrée. Moi, là, c'est absolument mon idée personnelle, donc pas du tout basée sur des preuves scientifiques. Je pense que les différents représentants des différentes religions qui avaient été sollicités au moment de la première loi bioéthique avaient très bien raconté la différence entre s'acharner et pas s'acharner. Et puis, moi, ça me paraissait très raisonnable. Voilà. Mais ça, c'est uniquement un point de vue personnel. Alors, sur l'insémination post-mortem, là, pour moi, c'est premièrement, Évidemment, ce n'est pas parce qu'on peut faire des trucs en médecine qu'il faut tous les faire, hein. Mais c'est un tout petit peu le problème en ce moment. Et c'est tellement le désir d'immortalité que là aussi, moi, à titre personnel, ça me paraît extrêmement malsain. Donc, pour les on avait un groupe d'étudiants européens et américains d'ailleurs. On faisait des séminaires de bioéthique tous les étés et on leur donnait des cas pratiques. Il y a eu un cas comme ça, mais qui avait été réglé au niveau de l'Europe. Là, c'était une femme et ils avaient une femme et son compagnon qui avaient prélevé une fécondation in vitro parce qu'elle avait un cancer de l'ovaire. Et puis, donc, elle est traitée, survit, et son copain s'en va. Et donc, elle demande, et le copain demande que les embryons soient détruits, et bien, ils ont été détruits, quoi. Voilà. Je pense que là encore, enfin, c'est un petit peu plus du bon sens que de la loi.
Merci. Jean Béchler.
Merci, Monsieur le Président. La discussion m'a paru dérivée complètement et a porté sur le droit et l'économie de la santé des sujets qui sont parfaitement hors sujet, qui n'ont rien à voir avec la question posée, à savoir la santé remplace-t-elle ou a-t-elle remplacé le salut ? Alors, si on s'attache à cette question braguienne et sans dévier, il faut l'envisager à deux points de vue. Premier point de vue, au niveau des principes. La santé peut-elle remplacer le salut ? La réponse est évidemment non, parce que le salut est une fin dernière, alors que la santé est une fin de service. Il vaut mieux être en bonne santé pour assurer son métier humain, mais ça ne vous dit pas à quelle destination doit viser le métier humain. Et donc, de fondation, tout ce qui va dans ce sens-là est irrationnel. Alors, ça n'explique pas pourquoi il y a des irrationnels, mais c'est irrationnel. Deuxième question, tout à fait différente, la santé remplace-t-elle ou a-t-elle remplacé le salut ? Cela pose deux sous-questions. Première sous-question, qu'entendez-vous par salut ? Alors, vous avez confessé, madame, que vous étiez catholique. Je vous en félicite, mais tous les humains ne sont pas catholiques.
Je sais.
Et je serais très étonné qu'un brahmane ou un brahmaniste et un bouddhiste aient la même position que vous dans ce domaine, sans parler des lettrés chinois. Et donc, le salut au sens de fin dernière de l'homme est susceptible d'interprétations radicalement différentes. D'où la deuxième sous-question, vous vous êtes placé dans le cadre, de la chrétienté, c'est pour l'essentiel de l'Occident, et là, la question intéresse l'historien et le sociologue. Est-il démontré que la santé a remplacé le salut ? J'éprouve les plus grands doutes pour ce genre de propositions générales qui relèvent de la pop-sociologie. Sur quelles statistiques repose cette affirmation ? Pour les périodes antérieures au XIXe siècle, il n'y en a pas du tout. Je doute fortement que les gens aient souffert de maladies épouvantables, soient morts jeunes dans les périodes antérieures, parce qu'on leur promettait le salut. D'abord, il n'était pas garanti, le salut. Et tout simplement, lorsqu'on est malade, qu'on souffre, quand on a mal aux dents, ça occupe une place forte importante. Donc, pour les périodes anciennes, on n'en sait rigoureusement rien. Pour la période actuelle, j'éprouve également les plus grands doutes. Les gens ne sont pas stupides, enfin. Nous préférons être en bonne santé qu'en mauvaise santé, c'est très bien. Bon, ça pose des problèmes juridiques, économiques et ainsi de suite, j'en tombe d'accord. Mais est-ce que vraiment beaucoup de gens, dehors des fadas idéologiques, considèrent que la santé est devenue la fin dernière de l'humanité ? J'en doute très profondément.
Alors,
la fuite des églises, et des temples, si vous voulez, n'a pas pour conséquence mécanique que la santé remplace le salut.
Alors,
je ne sais pas si j'ai été clair.
Très clair. Sur effectivement le fait que je connaisse rien à l'Orient, ça c'est sûr. Vraiment, je suis incapable de savoir ce qui se passe dans les autres civilisations. Sur le passé, je vous dis, il y a cette prière de Pascal qui dit un peu ce que vous dites différemment. C'est-à-dire, ça a été lu comme j'ai pas la santé, c'est un moyen d'avoir le salut. C'est plutôt de cette manière-là. Voilà. Sainte Thérèse, vous voyez, les gens un peu perclus de voilà. Mais c'est un peu cela aussi dont on a gardé l'image hein, chez les catholiques. Alors maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est une coïncidence. Mais ce que je vois moi, alors là vraiment, et dans les statistiques, c'est une demande de santé à tout prix quoi. Et c'est ce que disait M. Pébreau sur les Américains. Quoi. C'est on ne veut pas mourir, donc faites tout pour qu'on ne meure pas. C'est juste ça. Et là oui, ça on a les données. Alors. Ah non, ce que je vous ai dit. Non. Alors est-ce que la santé peut remplacer le salut? Ça j'ai dit vraiment non, c'est impossible. Et je vous dis, je pense que la santé n'a pas d'avenir sans le salut. Si vous voulez, on peut le dire comme ça. Est-ce que l'absence de spiritualité, l'absence, et là aussi j'ai essayé d'élargir un peu, mais je vous dis, je ne sais pas le faire bien, de transcendance, de croyance dans le fait qu'il y a autre chose que la vie biologique chez l'homme, qu'on respecte chez l'autre autre chose que la vie biologique, est-ce que ça influence notre vie aujourd'hui? Là, je pense que oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est plutôt vous, comme académie, qui étiez bien placé pour réfléchir sur le processus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a amené ça? Mais ça, je suis absolument d'accord avec vous. Qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a amené qu'aujourd'hui, on parle de santé, de spiritualité, qu'aujourd'hui, comme on l'a vu donc sur le Covid, on va faire respecter, pour préserver la santé du corps social et des individus qui la composent, on réduit les rites, on réduit la communion, on réduit tout ça. Voilà. C'est une manifestation.
Il y a encore effectivement deux questions, mais Jacques de la Rosière.
Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui est très intéressant. J'ai une curiosité. Jusqu'à présent, je comprends que l'idée générale, c'est que la foi, l'Église, la préoccupation religieuse était autrefois centrée sur la santé de l'âme et que les progrès de la médecine venant, l'Église a considéré que, bien qu'elle fût dominée par la santé de l'âme, la santé physique était aussi importante et qu'il fallait essayer de concilier les deux. Alors, ma curiosité est la suivante. On a beaucoup dit que le rigorisme en matière sexuelle avait favorisé des dérèglements, des désespérances sur le plan psychologique, et avec Freud et toute l'école qui a suivi, on a considéré que l'épanouissement sexuel était souvent la clé d'une amélioration de la santé psychique. Alors, la question que je voudrais vous poser est très simple. Est-ce que, en présence d'un malade psychique qui va être l'objet d'une analyse qui va peut-être conduire cet individu à une libération sexuelle, disons les choses simplement, est-ce que l'Église est favorable à une telle analyse, à une telle médication aussi, bien que ceci puisse, dans certains esprits, être considéré comme contraire à l'enseignement de l'Église traditionnelle. Voilà ma question.
Vous aviez un cardinal, mais si j'ai bien compris, malheureusement, il a rejoint son créateur. Mais je pense que c'est plutôt un homme d'Église à vous répondre, hein, parce que nous, à partir, enfin, j'imagine que les psychiatres font tout ce qui est nécessaire pour remettre leurs patients en bonne santé. Mais en revanche, sur les enseignements de l'Église, j'ai du mal à me considérer comme une personne compétente, là.
Bien, vous êtes sans doute trop modeste, Isabelle. Michel de Gégère.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre exposé. Vous avez dit que la demande d'immortalité se manifestait aux deux extrémités de la vie humaine, à son commencement avec le droit à l'enfant et puis à son terme avec le désir de prolongation indéfinie de la vie humaine. Vous nous avez dit aussi que le droit à la santé revenait à assimiler la maladie à une sorte de damnation. Et il me semble que cette assimilation se manifeste, elle aussi, aux deux extrémités de la vie humaine, puisqu'elle se manifeste au commencement de la vie humaine, eh bien, par le tri embryonnaire, par l'avortement des trisomiques, par toute cette espèce d'eugénisme soft auquel nous assistons, qui repose sur l'idée que certaines vies ne méritent pas d'être vécues en considération de l'état de santé de ceux qui naîtraient. Et puis, à la fin de la vie humaine, cette même logique s'exerce par la revendication de l'euthanasie sous le nom de droit de mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, c'est, si je comprends bien, mourir en bonne santé, puisque c'est l'idée que, eh bien, la maladie, à un certain moment, rendrait la vie indigne, en tout cas, d'être vécue. Alors ma question est, est-ce que nous n'assistons pas ainsi au passage de ce droit à la protection de la santé que revendiquait justement le professeur Delvolvé, à un droit absolu à la santé tout court, qui, appliqué aux incurables, eh bien, en vient à fonder une espèce de droit de vie et de mort de la société sur ceux qu'elle estime en mauvaise santé.
Mais c'est le risque, hein. C'est effectivement à partir du... Mais c'est l'absence de contre-pouvoir. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus, c'est-à-dire que c'est normal que l'État protège son corps social et protège son existence et perdure dans son être biologique. Et c'est normal que, comme vous l'avez dit, M. Delvolvé, on veuille une force de travail en bon état pour assurer un bon fonctionnement de l'économie. Ce qui, pour moi, manque aujourd'hui, et parce qu'on ne l'a pas entendu trop au moment de la crise du Covid, hein. On a entendu un peu les églises, mais c'est le contre-pouvoir qui autrefois, là, je pense, était beaucoup plus puissant. C'est plutôt comme cela que je verrais cet équilibre entre l'État qui nous protège, à qui on a confié une protection, qui l'assure. Enfin, je vous dis, moi, je suis très contente, hein, d'avoir de l'eau propre et de la nourriture saine et tout ça grâce à l'État. Mais il faut un contre-pouvoir, je pense. Qui pour moi aujourd'hui est faible et peu audible.
Merci. Il nous reste donc un peu de temps. Jean Béchler, vous avez à nouveau la parole.
Je contesterai, alors, y compris le président, qui manifestement identifie spiritualité et religion. Pourquoi pas, une question de vocabulaire. Mais si on n'adhère pas à une religion quelle qu'elle soit, on est exclu de toute vie spirituelle. Eh bien, je vous renvoie au classique chinois, par exemple à Mencius, où il y a une spiritualité séculière explicite. Et quelle est la fin ultime de l'homme? La fin dernière de l'homme, c'est dit expressément au livre 7, je vous y renvoie, la perfection. Il faut viser la perfection de l'humain en soi et dans la société. C'est admirable et c'est d'une profondeur, enfin, presque insondable. C'est une manie, enfin, européenne ou occidentale de considérer qu'il faut, si on n'est pas chrétien, on n'a pas de vie spirituelle, si vous voulez. Alors bon, c'est pas gentil pour les juifs ni pour les musulmans, mais ça n'est vraiment pas gentil pour les bouddhistes, les brahmanistes et ceux qui n'adhèrent à aucune religion et qui sont légions aujourd'hui. Alors ça, ça pose une autre question. Est-ce que pour eux, qui représentent probablement 80% de l'humanité, la santé a remplacé le salut? La réponse est non. Les gens, bon, point. C'est pas possible, d'une part, c'est absurde, et d'autre part, ça n'est pas un fait avéré. Vous avez parlé, bon, Pascal, évidemment, les mystiques, mais 99,9999% des gens dans les sociétés traditionnelles ne passaient pas leur temps à penser au salut. Enfin, ils s'occupaient de leurs affaires quotidiennes et Dieu sait s'ils avaient des soucis sur les bras. Enfin, donc, il y a une perception qui est complètement biaisée et qui est biaisée, je crois, par ce qu'on a appelé la mort de Dieu en Occident et dont on a tiré la conséquence que c'est pas, on ne peut pas vivre si on n'adhère pas à la croyance dans un Dieu personnel, créateur, etc. Je crois que c'est faux.
Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je suis en train de relire ce que j'avais écrit. Sans vie spirituelle. C'est sans vie spirituelle, effectivement. Croyance au salut, si on est catho, mais sans vie spirituelle, sans idée de transcendance. Et j'avais ajouté sans reconnaissance de l'humanité de l'autre, ce qui est aussi une forme de spiritualité.
Transcendance, c'est trop.
C'était un paquet. Hein. Vous voyez, j'ai dit spiritualité, transcendance, reconnaissance de la dignité de l'autre, vie spirituelle. Je suis d'accord.
Si nous sommes d'accord, je suis heureux, madame.
Je ne me prononce pas pour le président, mais en ce qui me concerne, je suis d'accord.
Rassurez-vous, le président va parler pour lui-même, pas trop longtemps, j'espère. Peut-être quelques mots d'abord sur la raison pour laquelle j'ai demandé à Isabelle Durand-Zaleski de traiter ce sujet. J'avais été beaucoup frappé par justement cette phrase que j'ai trouvée à la page 200 d'un des moins mauvais livres de Michel Foucault, à savoir « Naissance de la clinique ». La santé, de nos jours, la santé remplace le salut. Bon, bien entendu, ce n'était pas tout à fait ça que l'auteur qu'il citait avait écrit. Donc, José Miguel Guardia, qui était un Espagnol, mais un Espagnol athée et républicain, qui donc ne se sentait pas très bien en Espagne et qui, pour cette raison, est passé en France, où il a pris la nationalité française et où il a écrit pas mal de choses assez cruelles sur son pays d'origine, chose qui était peut-être d'ailleurs méritée en très grande partie. Il se trouve que cette façon de voir, de jouer santé et salut l'un contre l'autre, est maintenant une opinion que l'on trouve, que l'on rencontre, peut-être pas chez des esprits très déliés, mais chez certains, auteurs répandus dans les médias, qui expliquent la baisse de la religion, je ne dis pas de la spiritualité, que je distingue moi aussi assez soigneusement, la baisse de la religion en Occident s'expliquerait parce que les gens ne vivent plus dans la hantise constante de la mort, de perdre leurs enfants en bas âge, ce qui était quand même presque la règle dans les siècles passés, et des choses de ce genre-là. Donc on a l'impression que santé et salut sont chacun dans un plateau d'une balance, de telle manière que lorsque le salut augmente, la santé n'a peut-être pas besoin de nous soucier à ce point et réciproquement. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. L'endroit dont vous sortez, chère Isabelle, s'appelle l'Hôtel Dieu. Et je rappelle que c'était le nom de tous les hôpitaux jusqu'à une certaine époque. Il se trouve que celui-ci a gardé son nom, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment il s'appelait sous la Révolution, par exemple. Mais bon, c'est, ça montre, si vous voulez, que le souci de la santé et le souci du salut faisaient très bon ménage, jusqu'à un certain point. Alors, vous avez eu raison, je crois, de mettre en lumière le danger d'un certain dolorisme. Je crois que vous le notez dans votre version écrite. Je ne crois pas que vous ayez prononcé le mot. C'est d'ailleurs l'idée suivant laquelle la souffrance serait rédemptrice. Ce qui peut sauver, si salut il y a, ce n'est pas la souffrance, c'est l'attitude que l'on prend par rapport à la souffrance. Et Pascal dit assez nettement que la maladie peut être l'occasion d'une réflexe, d'un retour sur soi et d'une réorientation de la vie, mais qu'en elle-même, bon, c'est simplement un dysfonctionnement des organes et rien de plus. Vous avez parlé de la demande d'immortalité, alors qui est quelque chose de très remarquable. Elle se manifestait, nous l'avons entendu, dans le monde antique. Thierry, qui nous a quittés là, enfin, pas au sens métaphorique, mais qui est simplement parti de la salle, hein. Thierry de Montbrial l'a rappelé, le désir d'immortalité se manifestait comme le désir de la gloire. Et il a donné à juste titre l'exemple d'Achille qui est placé devant le choix entre une mort glorieuse et une vie rassasiée de jours. Eh bien, bon, il choisit la mort glorieuse en pensant que bon, c'est ça qui allait lui assurer une certaine immortalité. Il est intéressant de voir à quel point le souci d'immortalité a pris des dimensions tout à fait physiques, matériel, avec par exemple eh bien le soin, le désir de certaines célébrités de faire congeler leurs cadavres en attendant que la médecine progresse à tel point qu'elle pourrait leur redonner la vie. Il me semble avoir lu, mais je crois que ça s'est avéré être une légende, que si l'on avait conservé le cadavre de Lénine, c'était pour lui permettre, lorsque la médecine soviétique aurait connu les impétueux développements que l'on connaît, de le ramener à la vie. Bon, ça aurait été souhaitable. Je crois que notre ami Alain Besançon, qui n'est pas là, aurait peut-être émis quelques objections. Donc, oui, la demande d'immortalité est-elle un salut? Continuer comme ça, même si c'est en très bonne santé, est-ce que ça serait vraiment, vraiment un salut? Bon, on peut se poser la question. Mais je crois que vous avez eu tout à fait raison de répondre à notre ami Jean Béchler que, effectivement, religion et spiritualité sont des choses tout à fait différentes. C'est une distinction que l'on a de plus en plus tendance à pratiquer maintenant, et je crois que c'est tout à fait légitime. Bon, le souci de dire qu'il y a quelque chose de plus que cette vie, je terminerai quand même sur une question. Je ne sais pas si Isabelle pourrait... Je me demande si la croyance en une transcendance, alors je dis bien une transcendance, peut être totalement déconnecté, non pas du souci de la vie que l'on vit, mais de la vie que l'on donne. Enfin, est-ce que la perfection, telle que le chapitre 7 de Mencius le suggère, et je ne vois là que quelque chose d'extrêmement noble. Est-ce que le souci de la perfection est un bien tel qu'il puisse contrebalancer tous les malheurs qui peuvent arriver à l'enfant que l'on jette dans le monde? En ce qui me concerne, je serais assez réservé sur la réponse à donner à cette question. Je ne sais pas, c'est peut-être pas une question pour la médecine. Mais ça peut être une question pour les personnes humaines qui ont le métier de médecin.
Oui, alors, effectivement, je ne suis pas trop à l'aise sur... ce qui me mettait plus à l'aise sur justement le credo catholique, c'est c'est l'absence d'égoïsme. Mais je pense que quand on parle de perfection, et là, c'est vous qui le savez, c'est également la perfection dans son comportement vis-à-vis des autres. Mais c'est ça, c'est, on prie pour le salut du monde, quoi. Et théoriquement, le salut n'est pas un désir qui s'assouvit par sa réalisation, puisque on est toujours en train d'essayer de progresser. Tandis que peut-être la santé, à un moment, on est content, et puis ça s'arrête. Mais c'est surtout, pour moi, ce qui est très important, et je pense que ça, je sais pas si ça se retrouve dans l'idée de transcendance, mais c'est l'altruisme, c'est pour les autres. Être prié pour les autres, faire quelque chose pour les autres. C'est plutôt ça. Et ça, théoriquement, ça colle à peu près avec les serments, les différents serments médicaux et ce que théoriquement la profession médicale cherche à faire.
Je vous remercie. Il se trouve qu'il est très exactement 17 heures. Donc, je me propose de lever la séance avec votre permission.